Bonjour à chacun. Je ne suis pas venu tout seul, je suis venu avec Claire-Lise, mon épouse. Et le Seigneur nous a donné 6 enfants. Alors, ils sont aussi là, ils sont bien fatigués, parce qu'ils reviennent de colonies de vacances. Donc, s'ils s'endorment pendant le message, ce n'est pas qu'à cause du message. C'est peut-être aussi la fatigue de la colo. Quand on arrive dans votre église, on est impressionné par le bâtiment. C'est beau, c'est neuf, c'est grand. Nous, on a un petit local à Vichy. Et c'est vrai que, vite fait, hein, comme responsable, on peut être attiré à aller visiter les salles, etc., comment ça se passe. Mais qu'est-ce qui est important? Est-ce que c'est le bâtiment ou est-ce que c'est ceux qui le composent? On est d'accord? C'est vous, hein, c'est ceux qui le composent. Alors moi, je ne vous connais pas beaucoup. Je veux dire, même je vous connais peu. Qui est de passage, en fait? Qui c'est qui ne vient pas dans cette église-là, normalement? Est-ce que vous pouvez lever la main? OK, donc vous êtes tous d'ici. Nous, donc, venant de Vichy, on est des Bourbonnais, et vous, vous êtes des Auvergnats. Mais on s'aime, hein? Alors, c'est vraiment très chouette pour nous de découvrir cette église. On connaissait l'église rue Châteaudun, et de voir d'autres frères et sœurs, d'autres personnes qui ont été arrachées des ténèbres pour être planté, on pourrait dire, dans le royaume de notre Seigneur Jésus. C'est un miracle qu'il a fait dans chacune de nos vies. Et un jour, on va tous se retrouver ensemble, là-haut, pour louer le Seigneur. Et ça, c'est merveilleux. Alors, on voudrait ensemble regarder la parole ce matin. Et alors, c'est la télécommande là, c'est ça? Et j'ai fait... Oh, magnifique! Je vous invite à aller dans l'évangile de Luc. Et avant même de lire le texte, j'aimerais vous demander encore une question. Qu'est-ce qui est important? On a dit entre le bâtiment et ceux qui le composent, c'était ceux qui le composent. Pareil pour vos maisons, hein, qu'est-ce qui est important? Est-ce que c'est votre maison ou ceux qui y habitent? Bien sûr, c'est ceux qui y habitent. Mais qu'est-ce qui est important? Est-ce que c'est vous ou c'est votre cœur? C'est votre âme? On est d'accord que votre corps est périssable, votre chemise va s'abîmer. Mais votre cœur, lui, peut être quelque chose qui devient de plus en plus beau. Et quelquefois, il nous est difficile de savoir, en fait, si notre cœur est en forme ou il n'est pas en forme. Alors, je vais rajouter à la prière de mon frère vraiment une prière en demandant au Seigneur qu'il puisse nous sonder ce matin et qu'on puisse l'entendre. Notre Dieu, nous voulons te bénir pour ce temps ensemble, en famille, devant toi, avec toi. Et nous te prions, s'il te plaît, par ton esprit, sonde nos cœurs. Donne-nous, Seigneur, l'écoute, l'attention. Nous avons besoin de toi. Nous te supplions, Seigneur. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons pas vivre quelque chose d'honnête, quelque chose de véritable, quelque chose de vrai. Seigneur, nous aimerions porter des fruits pour toi. Nous te demandons, Seigneur, en ta grâce, de venir à notre rencontre ce matin. Nous voulons voir Jésus dans le bon nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, alors je vous invite à une lecture dans Luc au chapitre 7, à partir du verset 36 jusqu'au verset 50, et je vais lire dans la version du semeur. Un pharisien invita Jésus à manger. Jésus se rendit chez lui et se mit à table. Survint une femme connue dans la ville pour sa vie dissolue. Comme elle avait appris que Jésus mangeait chez le pharisien, elle avait apporté un flacon d'albâtre rempli de parfum. Elle se tint derrière lui à ses pieds. Elle pleurait. Elle se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. Alors elle les essuya avec ses cheveux et en les embrassant, elle versait le parfum sur eux. En voyant cela, le pharisien qui l'avait invité se dit « Si cet homme était vraiment un prophète, il saurait quelle est cette femme qui le touche. » Que c'est quelqu'un qui mène une vie de débauche. Jésus lui répondit à haute voix, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. »« Oui, maître, parle, » répondit le pharisien. Il était une fois un prêteur à qui deux hommes devaient de l'argent. Le premier devait 500 pièces d'argent, le second 50. Ni l'un ni l'autre n'avaient de quoi rembourser leurs dettes. Il fit cadeau à tous deux de ce qu'ils lui devaient. « À ton avis, lequel des deux l'aimera le plus ?» Simon répondit, « Celui, je suppose, auquel il aura remis la plus grosse dette. » « Voilà qui est bien jugé, lui dit Jésus. » Puis, se tournant vers la femme, il reprit, « Tu vois cette femme ? Eh bien, quand je suis entré dans ta maison, tu ne m'as pas apporté d'eau pour me laver les pieds. Mais elle, elle me les a arrosées de ses larmes et les a essuyées avec ses cheveux. Tu ne m'as pas accueilli en m'embrassant, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a cessé de couvrir mes pieds de baisers. Tu n'as pas versé d'huile parfumée sur ma tête, mais elle, elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés lui ont été pardonnés. C'est pour ça qu'elle m'a témoigné tant d'amour. Mais celui qui a eu peu de choses à se faire pardonner, ne manifeste que peu d'amour. Puis il dit à la femme, « Tes péchés te sont pardonnés. » Les autres invités se dirent en eux-mêmes, « Qui est donc cet homme qui ose pardonner les péchés ?» Mais Jésus dit à la femme, « Parce que tu as cru en moi, tu es sauvée, va en paix. » Dans ma Bible, il y a un titre avant ce texte, avant cette histoire, qui dit « L'amour, fruit du pardon ». On a terminé tout à l'heure un chant par « Il m'aime ». C'était le dernier couplet qui parle de l'amour de Jésus pour nous, de l'amour de Dieu pour nous. J'aimerais vous poser, moi, une question. Comment toi, tu aimes Jésus ? Est-ce que, voyez la pâquerette, est-ce que c'est de manière aléatoire ? Je crois que le schtroumpf coquet, quand il prend la pâquerette et il prend les pétales, il veut voir comment la schtroumpfette l'aime, alors il prend une pétale, elle m'aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout. Peut-être nous, on est pareil. Le lundi, on aime un peu. Le mardi, on aime beaucoup. Le mercredi, passionnément. Le jeudi, on aime Jésus à la folie. Puis le vendredi, on est un peu déçu. Là, ça va pas du tout. Et je préfère regarder un bon truc à la télé, histoire de changer les idées. Comment aimes-tu Jésus ? Une autre question, on va poser beaucoup de questions, c'est vous qui cheminerez pour les réponses. Te sens-tu digne d'être en présence de Jésus ? Peut-être oui, parce que tu le vaux bien. Peut-être il fait partie de ton groupe d'amis, comme une autre personne sur tes réseaux. Ah, peut-être que Jésus, en fait, vraiment, il t'intéresse, t'aimes bien y aller, t'aimes bien venir à l'église, t'aimes bien aller, parce qu'en fait, il y a de bonnes choses pour toi, et vraiment, ça vaut le coup de le connaître. J'aimerais même inviter mes copains, mes copines à le connaître, mes amis, mes parents, il y a des bonnes choses pour moi. Ça vaut le coup d'aller le voir. Ou alors, peut-être que tu ne te sens pas digne et que tu n'as rien à faire dans sa présence. On répondra à ces questions au cours du message. Une autre question. Comment sers-tu Jésus ? Est-ce que tu le sers debout chez toi ? Un peu comme ce pharisien. Hein ? Est-ce que tu le sers assis ? Un peu comme ceux qui étaient aussi invités et spectateurs. Ou est-ce que tu le sers à genoux, à ses pieds, comme cette dame ? Est-ce que tu sers Jésus avec un regard odieux sur les autres ? Comme le pharisien, est-ce que tu es heureux d'être à ses côtés, faire partie de la troupe, et puis un petit peu comme les amis du pharisien ? Ou est-ce que tu es heureux de servir Jésus en apportant ce que tu as de meilleur ? C'était interpellant le verset que nous a lu Michaël concernant les offrandes. Moi, je me suis reconnu là. Cet homme qui amène son superflu. Alors que cette dame que le Seigneur a mis en valeur, qui a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Alors l'histoire qu'on a lue, c'est une histoire qui est bien réelle. J'aime bien en fait redéfinir ça. Ce n'est pas une histoire inventée, on n'est pas dans un Tintin, un Picsou, on n'est pas dans une histoire Netflix, on est dans une histoire qui s'est réellement passée. Jésus, le pharisien, une femme de mauvaise vie et les autres invités. C'est les quatre, on va dire, groupes ou personnes qui étaient présentes dans cette histoire. Comment je m'approche de Jésus ? Alors le pharisien, lui, il invite Jésus.
En fait, il a certainement la capacité, les moyens. Moi, j'invite Jésus chez moi ce soir. Apparemment, il est quelqu'un d'important. Il va venir manger à la maison. Il veut honorer Jésus. Ah, c'est quand on fait un repas, vous voulez honorer les personnes. Mais en même temps, il veut rester digne. Ce n'est pas lui forcément qui va laver les pieds de Jésus, qui va l'embrasser, qui va le serrer. Là. Oula, attention, on ne le connaît encore pas tant que ça. Mais si seulement il pouvait juste être chez nous et puis que ça me rapporte un petit peu de cote de popularité, ça serait pas mal. Il s'approche aussi de Jésus avec un regard limité. Rappelez-vous, en fait, dès qu'en fait, il voit la femme pécheresse qui s'agenouille aux pieds de Jésus, sa pensée envers Jésus, elle est « Si c'était un prophète, il saurait que cette femme est pécheresse. Elle a une mauvaise vie. » Donc, il a un regard un peu sur Jésus limité. Voilà comment il s'approche de Jésus. Il s'est construit son Jésus. Peut-être nous aussi, nous pouvons nous construire notre petit Dieu. Et puis, il a un regard effectivement méprisant sur les autres. Un regard méprisant sur cette femme qui rentre, pourtant qui est aussi une fille d'Israël, qui fait partie du peuple élu comme lui. Et donc, à aucune raison, il serait nécessaire en fait, d'avoir un regard qui justifierait qu'elle soit plus indigne que lui. On voit à travers cette approche que le pharisien, il se sent digne et il est méprisant. On peut aussi s'approcher de Jésus comme la femme pécheresse. On s'invite, je sais que Jésus, il est là, et j'y vais. Je ne fais même pas fi de ce qui se passe autour, des convenances, etc. Est-ce que, non, j'y vais, il est là-bas, il est chez le pharisien, peu importe si je suis invité ou pas, j'y vais. Et je me mets à genoux, je reconnais en lui ce maître. Elle se tient aussi derrière Jésus et pleure. Elle montre son indignité, combien en fait elle ne se sent pas digne d'être dans la présence de Jésus. Et elle pleure, et quand elle pleure pas en fait parce qu'elle a perdu quelque chose, elle pleure sur sa vie, elle pleure sur son péché. Elle reconnaît qu'en fait, elle a, c'est un privilège pour elle d'être devant Jésus, mais qu'en fait, elle n'est pas digne de pouvoir être là. Elle essuie les pieds de Jésus avec ses cheveux. Elle fait fi de sa propre vie. Elle prend ses cheveux. Alors, j'imagine, pour une femme, c'est quelque chose. Hein. Moi, j'ai mon ado qui a des bouclettes, elle fait attention, etc. Mais là, de prendre les cheveux et de passer comme ça, essuyer les pieds sales, vous imaginez ? Tout son cœur centré, son regard centré sur la personne de Jésus et pas sur elle-même, ses cheveux, ses bouclettes, etc. Elle embrasse les pieds de Jésus. Vous avez déjà, vous, embrassé les pieds de quelqu'un ? Quelqu'un qui a marché peut-être toute la journée pieds nus ? C'est quand même pas si évident que ça. Encore là, on voit son attitude. Et elle verse un parfum sur les pieds de Jésus. On est concrètement dans ce qu'on a vu tout à l'heure. Elle amène ce qu'elle a de meilleur. Et elle le verse sur les pieds de Jésus. Elle n'est pas venue juste pour pleurer sur sa vie. Elle est venue pour apporter quelque chose de ce qu'elle avait de meilleur. On voit à travers cette femme qu'elle se sent indigne d'être dans la présence de Jésus. On voit qu'elle est convaincue, elle veut le voir, elle veut venir en sa présence. On voit qu'elle est résolue, c'est ça qu'elle veut vivre. Et elle se consacre, elle amène ses biens, elle amène ce qu'elle a de précieux et elle le donne à Jésus. Comment je m'approche de Jésus ? Il y a aussi les autres invités. On pourrait passer outre, mais ils sont là dans l'histoire, ils nous sont rapportés, je pense qu'il y a une raison. Eux, ils sont assez discrets, un peu spectateurs. Hein. On peut penser que ces repas, ils étaient allongés, un peu comme ça, il y avait des personnes allongées, puis les autres étaient debout et regardaient, c'était un peu un repas spectacle, c'était assez étrange, mais c'était la culture de l'époque. Les autres invités sont assez discrets, ils sont spectateurs. Mais en fait, ils ont un comportement analysant, il regarde un peu ce qui se passe, on peut quelquefois être dans cette attitude-là, et rapidement jugeant. Qui est cet homme qui se permet de pardonner les péchés ? voyez, je ne me mouille pas trop dans ce qui se passe, mais je regarde. Et puis, si à un moment, je peux trancher, dire ce que je pense, eh ben, je le ferai. Comment je m'approche de Jésus? Comment je regarde celui qui s'humilie? Imaginez-vous, vous vous mettez à la place du pharisien et vous avez cette dame qui s'approche en pleurant sur sa vie. Vous êtes, vous, membre de l'Église, et vous avez un frère, une sœur qui pleure sur sa vie, sur son péché. Quel est ton comportement en face de celui qui s'humilie? Est-ce que je le méprise ou est-ce que je me réjouis? Est-ce que je fais la juste distinction entre la créature souhaitée par Dieu et le péché qui entraîne la séparation? Pourquoi Jésus il accueille cette femme? Pourquoi il va voir le pharisien? Tout simplement parce que c'est des êtres que Dieu a créés et qu'il a voulu comme chacun d'entre vous, comme chacun de ces personnes qui sont sur la terre. Elles ont été permises, souhaitées, voulu par Dieu. Et ce qui nous sépare de Dieu, c'est notre péché. Alors au moment où l'histoire du péché peut être réglée, ce n'est pas du mépris, c'est la fête. Au moment où quelqu'un pleure sur son péché, je casse cette séparation, je retrouve cette... comment on pourrait dire ? Je retrouve cette communion avec Jésus lui-même, avec Dieu lui-même. Ainsi, pour Dieu, l'humilité n'est pas méprisable, mais une fête de réconciliation. Et j'aimerais vous inviter à lire dans Néhémie. Alors Néhémie, on part en arrière dans nos Bibles, on part dans l'Ancien Testament. Vous savez, la muraille de Jérusalem a été rebâtie miraculeusement. Le peuple s'est engagé à le faire, levons-nous et bâtissons. Alors Néhémie, après les psaumes, ou avant les psaumes. Néhémie, à partir du chapitre 8, verset 8. Et en fait, le peuple se retrouve pour écouter la loi. Une fois qu'ils ont rebâti les murailles, ils se disent, bon, ben maintenant, en fait, on veut aussi, on n'a pas juste des bâtiments, on veut entendre la parole de Dieu, on veut la mettre au centre. Et je lis à partir du verset 8. Ils lisaient dans la loi de Dieu et expliquaient au fur et à mesure, de façon posée et distincte, afin que chacun puisse comprendre ce qu'ils avaient lu. Tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Alors Néhémie, le gouverneur, Esdras, le prêtre et spécialiste de la loi, et les Lévites qui donnaient les explications au peuple, dirent à tous, « Ce jour est un jour de fête consacré à l'Éternel, votre Dieu. Ce n'est pas le moment de pleurer et de prendre le deuil. » Puis Esdras ajouta, « À présent, allez faire un bon repas, buvez d'excellentes boissons et faites porter des portions à ceux qui n'ont rien préparé. Car ce jour est un jour consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez donc pas. » car la joie que donne l'Éternel est votre force. » De leur côté, les Lévites calmaient tout le peuple en disant, « Mais soyez tranquilles, car ce jour est consacré à l'Éternel Dieu, consacré à Dieu. Ne vous attristez donc pas. » Alors tous allèrent manger et boire, faire porter des parts aux pauvres et organiser de grandes réjouissances, car ils avaient bien compris les paroles qu'on leur avait enseignées. La question de l'humiliation, de la repentance, c'est une fête. Bien sûr, il y a les pleurs, mais c'est un nouveau départ. En fait, sans ces pleurs, sans ce temps de repentance, peut-être il y a quelque chose, il y a un obstacle, il y a quelque chose entre moi et Dieu. Dans la voiture, en arrivant ce matin, on a prié en demandant au Seigneur qui te demande pardon pour nos péchés. Il y a peut-être quelque chose qui nous sépare de la communion avec toi. On a besoin de prendre ce temps, de se rappeler qu'en fait, ouais, on a encore un bout de chemin à faire avant d'être complètement semblable à Christ. Bien sûr, il nous voit saints grâce à Jésus, mais on a encore besoin de pleurer sur notre péché. Et c'est une fête après les pleurs. Les regrets laissent-ils la place à la reconnaissance?
Est-ce que je sais pleurer et me réjouir que je suis réconcilié avec Dieu?
Et je sais voir mon frère ou ma sœur de la même manière, me réjouir quand il se repent sur son péché et me réjouir du fait qu'il est de nouveau en route.
Simon, j'ai quelque chose à te dire. Jésus qui reprend
le pharisien.
Et le pharisien répond, oui, parle.
Oui, maître, parle.
Et là, Jésus va lui raconter une histoire.
Il va lui raconter une histoire, une parabole,
qui va nous faire comprendre une vérité cachée. Et je trouve que c'est magnifique parce qu'en fait, ce pharisien,
il aurait pu rester dans cette position en fait de
« moi j'invite, je suis digne », etc. Mais en fait, ce pharisien qui nous ressemble un peu, je ne sais pas, chacun fait son... Moi, pour en tout cas, il me ressemble.
Il dit à Dieu, « Oui, Seigneur, parle. »
Et en fait, en disant ça, en disant « Maître, parle », il permet, c'est l'occasion, la porte ouverte pour Dieu pour un éventuel changement dans sa vie.
Est-ce que je peux, c'est ce qu'on a prié tout à l'heure,
« Sonde mon cœur, Seigneur ».
En fait, par moi-même, et c'est ce qui est le problème du pharisien, c'est qu'il se croit digne, il se croit capable. Et moi, je suis bien comme ça.
Dans l'assemblée, dans ma famille, devant même la parole, je me sens capable.
Là où en fait, je devrais dire, non, maître, c'est toi qui sonde mon cœur, parle.
Tu vois encore toutes les fois où j'ai des pensées qui sont difficiles, de mépris vers l'un, vers l'autre. Toutes les fois où j'ai manqué d'amour, où je devais aimer et je ne l'ai pas fait, et ainsi j'ai péché. Invitons le regard de Dieu sur notre vie. Demandons-lui, Seigneur, sincèrement, parle. Quand dimanche dernier, j'ai donné ce même message, alors vous avez dû réchauffer ce matin, mais il y a des bons plats réchauffés. J'ai dit, Seigneur, parle. Il y a mon petit garçon qui m'a dit, ton serviteur t'écoute. Ça lui a fait penser à Samuel. Et c'est vrai, si on pouvait juste avoir cette attitude de cœur tous les jours, de pouvoir s'humilier devant Jésus en disant, parle, je veux t'écouter.
Lequel des deux l'aimera le plus? Alors, vous avez eu cette question de celui qui devait 50 pièces, l'autre 500 pièces. Apparemment, un denier, ça représentait une journée de salaire. Donc, il y en a un, il devait à peu près 2 années de travail et l'autre 50 jours de travail. Et quand il lui pose la question, celui qui a remis la plus grosse dette, bien sûr, quand il lui pose la question au pharisien, il lui dit « Lequel même aimera le plus celui qui a remis la dette ?» Le pharisien répond « Celui, je suppose, auquel on a remis la plus grosse dette. » Et on est tous d'accord avec ça. On se met dans cette idée que vous deviez 2 ans de salaire à quelqu'un et qu'il vous la remet. Waouh, quel soulagement, hein ? Plutôt que de devoir trimer pendant 2 ans pour ça. Le pharisien, il représente celui qui a ses 50 pièces. Assez distant, en fait, de Jésus. Peu pardonné. Et la femme, elle, qui est dévouée, consacrée, représente celle, bien sûr, qui a compris, en fait, combien elle a été pardonnée. Ses nombreux péchés lui ont été pardonnés, c'est pour cela qu'elle m'a témoigné tant d'amour. En fait, derrière cette affirmation de Jésus, on pourrait penser quelque chose qui n'est pas vrai. Ce serait « faut-il pécher plus pour aimer plus ?» J'espère que vous n'êtes pas d'accord avec ça. Ne cherchez pas à pécher plus, davantage, pour pouvoir aimer davantage le pardon offert en Jésus-Christ. Non. Mais malgré tout, c'est quand même une réalité, c'est que pour celui qui a beaucoup péché, au moment où il est pardonné, il comprend cette dimension. Bien plus que celui qui pense avoir peu péché.
Un verset dans la parole que vous connaissez dans Romains 6, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur.
Ce n'est pas marqué le salaire du péché pour la femme pécheresse, c'est la mort, mais pour le pharisien, 2 années de purgatoire, ça ira.
Non, c'est écrit le salaire du péché, c'est la mort. Et on a tous péché.
Ainsi, le salaire du pharisien qui pense avoir peu péché, c'est la mort. Et le salaire de la femme ayant beaucoup péché, c'est la mort. On voit cette cible qui nous fait penser en fait au fait que le péché, c'est manquer la cible. Au moment où je manque d'amour, je manque de pardonner, je manque de... Vous pouvez tout ajouter. Hein. Vous allez voir qu'en fait, on a mille raisons de s'humilier devant Dieu et de lui demander son secours. Nous sommes condamnés. La même conséquence, la mort, met une difficulté à percevoir. Une difficulté à percevoir combien, en fait, le péché est important. Et en fait, il est important, pourquoi ? Il est énorme, pourquoi ? La conséquence est énorme, pourquoi ? Parce qu'en fait, on a aussi une difficulté à concevoir ce qu'est un Dieu saint. Un Dieu sans péché, un Dieu sans faute. Tes péchés te sont pardonnés, des paroles difficiles à croire. C'est ce que vont interpréter les spectateurs, ceux qui sont là. Qui est donc cet homme qui ose pardonner les péchés ? Ça représente un peu la pensée du monde. Spectateur de ce qui se passe, et voilà. Comment pouvons-nous dire que Jésus est le seul chemin ? Peut-être que vous avez déjà eu des discours comme ça autour de vous. Chacun sa vérité, c'est ma vie. Ou encore, qui est le Père ? Moi, je vais me réincarner. J'ai quelques amis bouddhistes, c'est compliqué, hein, les discussions, etc. Et aujourd'hui, la pensée du monde est cette pensée qu'en fait, là, Jésus, la vérité, c'est sectaire. Hein. En fait, ouais, c'est sectaire. En fait, c'est... Jésus se montre comme le seul chemin. Tu le crois ou tu le crois pas, mais il se présente comme le seul chemin. Il y en a qui pensent qu'il n'y a rien après la mort. Alors moi, j'aime beaucoup la réaction de Jésus. Alors il y en a aussi qui disent, peu importe, hein, je suis baptisé, donc je fais ce que je veux. Donc voilà encore une pensée, une façon de faire, hein, de comprendre les choses. Donc les spectateurs là, qui étaient là, pour eux, c'est... Ouais, voilà, c'est ce qu'il a dit Jésus, ça vaut le coup d'être mis en doute. En fait, cette pensée du monde, c'est la pensée du diable. C'est inviter, c'est accueillir cette pensée-là. Jésus, il ne va pas du tout rentrer dans ces discussions-là, bien qu'il connaisse les pensées, de la même manière qu'il connaissait les pensées du pharisien. Il va trancher. Il va répondre à la femme, « Parce que tu as cru en moi. » Tu es sauvé, va en paix. Moi, je crois que quelquefois, il est important de ne pas chercher à discuter, à argumenter. La foi en Jésus-Christ, en ce qu'il a fait, c'est la foi en Jésus-Christ, en ce qu'il a fait. Il n'y a rien à rajouter. Soit tu crois et tu es sauvé et tu vas en paix, soit tu ne crois pas. Mais il n'y a pas d'autre alternative, de chemin, etc. Et Jésus ne va même pas discuter avec ça. Allez, restez avec vos pensées, etc. Moi, je m'intéresse à celle qui veut croire. L'amour, fruit du pardon. Alors, j'aimerais revenir sur les trois premières questions qu'on a vues en commençant, pour conclure. Comment aimes-tu Jésus de manière aléatoire ? Lundi un peu, mardi beaucoup, mercredi passionnément, jeudi à la folie, vendredi pas du tout. C'est par ma juste compréhension de ce que réservait mon péché à la foi, dans la rançon payée par Dieu en la personne de Jésus, que je peux progresser dans l'amour de Jésus. C'est en comprenant ce qui réservait mon péché, le salaire du péché, c'est la mort, en prenant le temps, le matin, et je parle pour moi aussi, de pouvoir dire, wow, en fait, je suis condamné à mort par mon péché, quoi. C'est peu importe, hein, j'ai manqué, je vais prendre l'exemple, hier, la famille rentre de colo, moi j'étais à la maison, je m'étais préparé à ça, j'ai manqué d'attention, d'amour, au bout de 2 heures qu'ils me racontaient la colo, j'ai envie de dormir, c'était difficile, ça montre quoi ? Ça montre mon manque d'amour, mon manque... Et ça montre que je suis encore voilà, je galère encore avec mon péché. Combien j'ai besoin de Jésus. Et de comprendre que le salaire, c'est la mort. Et que la justice de Dieu a été accomplie à travers la mort de Jésus-Christ, qu'il est mort à ma place. Qu'en fait, ça y est, tout est accompli. Ben, à ce moment-là, je peux dire, waouh, Seigneur, en fait, je pleure, ok, un temps, mais je me réjouis tellement parce qu'en fait, je t'appartiens et tu me vois saint. Je peux alors progresser dans l'amour de Jésus. Tu veux progresser dans l'amour de Jésus, prends du temps devant la croix. Prends du temps pour comprendre ce qui s'est passé là et demande à Dieu de l'aide. Je crois que c'est pour ça que Jésus aussi a institué la Sainte Cène, pour qu'on se souvienne, parce que c'est tellement facile d'oublier l'amour de Dieu. Te sens-tu digne d'être en présence de Jésus ? Oui, parce que je le vaux bien. Il fait partie de mon groupe d'amis, il m'intéresse, il a de bonnes choses pour moi. Non, je n'ai rien à faire dans sa présence. En fait, je ne peux pas me tenir devant Dieu et vivre. C'est ce que dit la Bible. On a du mal à concevoir ça. La grandeur de Dieu, on a vu, il a créé les étoiles, les tournesols, etc. En fait, je n'ai rien à faire devant Dieu. Bien sûr que je suis sa créature, mais je ne peux me tenir devant Dieu et vivre. C'est donc que par pure grâce, c'est un privilège ce matin que nous puissions ensemble louer le Seigneur, chanter le Seigneur. C'est un privilège, c'est une pure grâce, c'est un cadeau. En fait, peut-être tu es venu en disant, bon allez, c'est l'Église, le dimanche. Hein. En fait, on ne réalise pas ce cadeau qui nous est fait de pouvoir être devant Dieu. Et de pouvoir être ses adorateurs, ceux qui peuvent apporter quelque chose à Dieu. Je peux donc l'inviter à ma table et dans ma vie, et c'est un cadeau. Enfin, comment sers-tu Jésus ? Debout, assis chez toi, assis, debout chez toi, genoux à ses pieds, avec un regard odieux sur les autres, heureux d'être à ses côtés, apportant ce que tu as de meilleur. Je crois qu'être à genoux devant Dieu, lui apporter ce qu'on a de meilleur, c'est le servir de manière raisonnable. C'est pas fou, c'est pas irraisonnable. La femme qui a donné tout ce qu'elle avait avec ses quelques pièces, c'est raisonnable. La femme pécheresse qui s'humilie, qui pleure sur les pieds de Jésus, qui les essuie et qui donne ce parfum, c'est raisonnable. C'est remettre les choses dans le bon ordre. Je suis une créature rachetée. J'étais séparé de Dieu et je suis maintenant réconcilié. Et toute personne qui n'a pas accepté par la foi ce qu'a fait Jésus-Christ est toujours sur la colère de Dieu, sous la colère de Dieu. C'est pas, on verra, c'est tu es sous la colère de Dieu. J'aimerais terminer avec cette affirmation qui donne la paix. Jésus qui dit parce que tu as cru en moi, parce que tu m'as reconnu, parce que tu as compris qui j'étais, tu es sauvé, marche en paix. Je vous invite à prier. Seigneur, on veut te demander ton aide, s'il te plaît. Pour nous souvenir et nous souvenir encore d'où tu nous as retirés. Nous étions dans ce monde de ténèbres, sous la colère de Dieu, incapables de se tenir devant toi, incapables de voir ta face et vivre. Tous condamnés. Et notre Dieu, dans ton amour, parce que tu nous aimes, tu as donné Jésus-Christ, qui a tout accompli à la croix, la justice de Dieu. C'est le cadeau, la grâce qui nous est faite, pour que quand nous pleurons sur notre péché, nous puissions recevoir par la foi la paix, la grâce, la réconciliation, devenir héritiers du royaume de Dieu. pouvoir nous présenter devant toi, retrouver cette place que tu avais au départ pour nous, celle d'adorateur. Nous t'appartenons, tu nous as rachetés. Seigneur Jésus, je veux te demander ta grâce, ton aide pour que nous puissions revenir et revenir encore à la croix, comprendre ton amour et t'aimer à notre tour. Que nous puissions, Seigneur, aussi accueillir celui qui s'humilie. Que nous puissions, Seigneur, aussi te servir à genoux, que ce soit dans notre chambre ou à l'église, que nous comprenions qui tu es et que nous t'apportions ce que nous avons de meilleur. Seigneur, c'est un énorme privilège et on a du mal à le concevoir d'être devant toi. Te prions que tu ouvres nos yeux, que tu sondes nos cœurs. Voulons dire comme ce pharisien, parle, Maître. Seigneur, je veux te bénir pour ton peuple à Clermont-Ferrand, ton peuple sur toute la terre. Merci pour ce que tu as commencé dans chacune de nos vies et que tu vas amener à son terme. Merci parce que l'objectif, notre Dieu, c'est que nous te soyons semblables et tu es en train de préparer ton Église pour ton retour. Te bénissons, Seigneur, pour ce que tu es, ce que tu as dit ce matin. Dans le nom de Jésus. Amen.